Voilà. Si vous voulez bien, nous allons reprendre nos travaux.
Nous sommes sur écoute.
Ça vous sera soumis
avant mise en diffusion. En tout cas, je trouve ça super ce colloque parce que les questions que se posent les uns les autres, c'est exactement les mêmes que les nôtres.
Il y a quelqu'un qui est très intéressé, qui est la personne qui s'occupe de la configuration du musée Albert Kahn,
hein,
qui va être ouvert et qui a un vrai programme de mise en ligne d'archives. Et donc, on dit que la problématique de
l'ancienne.
Bien, voilà, donc nous reprenons avec Guillaume Soulez et Laurent Verret, qui sont à mes côtés, qui sont tous les deux enseignants-chercheurs à Paris 3, et qui travaillent depuis maintenant quelques années sur un autre type d'archives, qui sont des archives familiales, les archives d'une famille pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont déjà produit, à partir de ce matériau, un très beau documentaire. J'espère que certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir. Il est possible de le voir au moins en partie en ligne, peut-être
Même totalement, j'ai un lien aussi que je peux fournir éventuellement.
Très volontiers, parce que c'est un travail de... Alors, on va nous parler de rematérialisation de l'archive, mais c'est aussi un travail pour faire vivre les archives et pour les rendre non seulement vivantes, mais peut-être même émouvantes dans certains cas lorsqu'il s'agit d'archives de ce type-là. Donc je leur donne tout de suite la parole pour nous présenter leur projet et leur réflexion sur les problématiques de la journée.
Merci Michel pour cette invitation. Et effectivement, c'est une présentation donc à quatre mains, on va dire, avec Guillaume. Donc moi, je vais commencer parce qu'il nous a semblé que c'était quand même un peu indispensable de faire une présentation un petit peu du fond, justement, hein, de ces archives un peu particulières que sont ces archives familiales, les archives donc, de la famille Rézal, qui ont servi à la réalisation d'un documentaire et qui servent actuellement donc à la réalisation de ce qu'on appelle plateforme 14-18, c'est-à-dire, moi, ce que j'aurais plutôt tendance à appeler en fait une œuvre multimédia interactive à caractère historique et pédagogique. Bon, il y a à l'intérieur de ce projet un certain nombre de partenaires, ce qui est à la fois un atout, mais aussi parfois créer certaines difficultés de coordination, on va dire. C'est-à-dire que c'est un projet qui est à la fois dans lequel l'éducation nationale s'est beaucoup impliquée et l'université également, donc qui essaie d'articuler recherche, on va dire, et transmission didactique. Bon, c'est un point qui nous est évidemment très cher, Guillaume et moi. Ce que je propose avant que Guillaume rentre peut-être un peu plus dans une dimension analytique et théorique sur les questions que nous nous posons quant à la création de cet objet, parce que finalement c'est une sorte de workshop, hein, on avance progressivement sur un objet qui reste encore un peu, sinon insaisissable, en tous les cas qui évolue constamment, ce qui est aussi un des atouts, me semble-t-il, de ce projet de longue haleine. Je voudrais plutôt vous présenter ce qui a été à l'origine un peu de ce projet, c'est-à-dire cette archive privée, c'est cette archive familiale, ce qui m'amènera du coup à poser aussi quelques questions liées à la mise en forme de l'histoire à l'ère du numérique, parce que c'est aussi une problématique évidemment qui est centrale pour nous. Il ne s'agit pas uniquement de mettre à disposition un corpus exceptionnel qui est très vaste, hein, puisque on parle d'environ 3500 lettres et d'environ 400 photographies, mais de montrer aussi à travers le dispositif qu'on est en train de créer comment finalement un outil numérique peut permettre de penser, sinon une nouvelle écriture de l'histoire, en tous les cas une forme un peu originale de l'écriture de l'histoire et qui devrait normalement aussi dans l'absolu, poser un certain nombre de questions aux usagers de cet outil que sera plateforme 14-18. Alors, pour les origines du projet, effectivement, il y a un fonds privé je passe un peu sur les définitions basiques concernant les archives, mais je reviens quand même un petit peu sur cette question, effectivement, de l'archive privée, qui nécessite évidemment, comme toutes les autres archives, un certain nombre de questions, hein, c'est-à-dire voilà, qui a produit cette source, d'où vient-elle, dans quel contexte a-t-elle été produite. Et ça m'amène à dire d'emblée, mais ça vous le savez, je pense, que ces archives dites familiales, ces archives privées ont été pendant assez longtemps écartées un peu des recherches historiques classiques, alors que depuis peu, parce qu'elles s'intègrent justement à les collections publiques, elles sont prises en considération de manière beaucoup plus systématique par les historiens. Là, je vous ai mis une petite citation des gens des archives nationales ici qui la reconnaîtront peut-être, parce que c'est une citation du conservateur général du patrimoine concernant ces fonds d'archives qui ne sont pas significatifs par leur volume mais précieux par ce qu'ils témoignent du regard et du caractère de ceux qui les ont constitués. C'est aussi une des originalités de ce type de corpus, c'est-à-dire que ce sont des documents intéressants en tant que tels mais qui ont été généralement constitués ou organisés souvent par les familles, ce qui est le cas pour les Rezal, et cette organisation en elle-même est également aussi significative. Elles nourrissent ces archives privées des problématiques qui sont liées à l'histoire du sensible, à l'histoire des émotions. Elles constituent, comme le dit Philippe Artière, presque des contre-sources, hein, qui arrivent à donner finalement un autre éclairage de la vie des gens et des sociétés, ce qui est évidemment un atout évidemment pour les historiens qui travaillent sur les questions de mentalité, sur les questions d'opinion publique, etc. Et elles permettent, me semble-t-il, de mieux saisir, ce qui est tout à fait le cas des archives Rezal, bon, à la fois ce qui est de l'ordre de l'expérience quotidienne, des pratiques ordinaires, des conduites individuelles et des émotions personnelles, puisque dans ces lettres, évidemment, il est souvent question de sentiments, d'émotions qui ne sont pas, dont on ne retrouve pas toujours la trace dans des sources, on va dire, traditionnelles. Elles sont également importantes, ces archives, je l'ai dit, 3500 lettres, donc c'est énorme. Mais elles doivent, comme toutes les sources, hein, c'est une précaution évidemment à mentionner d'emblée, être utilisées avec un certain nombre d'outils qui sont ceux, je dirais, de l'historien. Et évidemment, elles doivent passer à travers un appareil critique qui est un peu spécifique. Alors, dans le cadre de la source qui nous intéresse, il faut là aussi, je pense, la recontextualiser dans un ensemble plus vaste qui est, disons, les archives privées, qui sont les archives privées durant la Première Guerre mondiale, et en particulier les correspondances des soldats à leur famille, qui constituent un ensemble documentaire absolument incroyable, hein, puisque, bon, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais vous savez peut-être que, donc, rien que pour le cas français qui nous intéresse, il y a eu 8 millions d'hommes qui ont été mobilisés, et qu'on estime qu'à peu près 13 milliards de lettres qui ont été échangées pendant toute la durée de la guerre, entre le front et l'arrière, ce qui constitue évidemment un ensemble absolument gigantesque, sans compter qu'il y a aussi des colis et des photographies qui ont beaucoup circulé. Je crois qu'en moyenne, on estime, les historiens de la Poste disent que c'est à peu près 5 millions de correspondances par jour pendant toute la durée de la guerre, 3 millions dans un sens entre le front et l'arrière, et 2 millions à peu près entre l'arrière et le front. Donc cette archive Rezal, elle s'inscrit dans cet ensemble-là, c'est-à-dire dans un ensemble de sources privées très riches de correspondances. Il y a aussi des carnets de notes, il y a aussi tout un tas des agendas. Enfin, ça nous intéresse aussi, puisque dans la famille, ils ont également tenu des agendas et des petits carnets, donc on les intègre aussi dans le projet, même si je ne vais pas directement en parler. Donc la lettre, c'est effectivement une source particulièrement intéressante qui donne des informations très personnelles. Et dans le cas des Rezal, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'ils sont nombreux. Puisque vous avez ici une photographie de la famille, ils sont 8. Et là, du coup, ça constitue évidemment un ensemble particulièrement intéressant, puisqu'on a à la fois, on a toutes leurs lettres, hein, c'est-à-dire souvent dans les correspondances de cette période-là, on a les lettres du soldat à la famille, mais on n'a pas les lettres de la famille au soldat. Là, on a les lettres qui circulent dans tous les sens, c'est-à-dire à la fois entre le front et l'arrière, mais entre le front et le front, puisque les garçons s'écrivent entre eux, entre les garçons et les filles, entre les parents et les enfants, entre les enfants eux-mêmes, enfin bref, et voire même on a des lettres aussi des membres de cette famille avec d'autres personnes de la famille ou avec d'autres personnes extérieures à la famille. Donc c'est un ensemble particulièrement riche. Et en plus, c'est une famille qui est éclatée pendant la guerre, c'est-à-dire qu'elle est dispersée, elle est un peu aux quatre coins de la France, ce qui constitue évidemment un très très gros avantage aussi, parce qu'on a des informations concernant non seulement différents fronts, mais différents lieux à l'arrière, la ville de Bordeaux, la ville de Lyon, la ville d'Agen, et puis tout un tas d'autres villes également où ils vont séjourner. Alors d'emblée, quelques informations aussi sur les caractéristiques sociales de ces familles. C'est une famille entre guillemets un peu exceptionnelle, qui appartient à la bourgeoisie éclairée, c'est une famille plutôt de médecins du côté de la mère, plutôt d'ingénieurs, des polytechniciens du côté du père. Vous voyez qu'il y a des enfants qui ont des prénoms arabes, enfin arabo-musulmans. Ça s'explique par le fait que le père, Eugène Rezal, à son premier poste en sortant de l'école polytechnique, il l'a eu à Tunis. Il a été ingénieur en Tunisie pendant 10 ans. Et donc, ils ont donné les prénoms arabes aux 4 premiers enfants qu'ils ont eus dans cette ville de Tunis. Ils étaient très ouverts. Ce sont des républicains, des laïcs. Donc voilà, une famille très éclairée, évidemment, qui d'emblée doit être là aussi identifiée comme étant un peu une famille exceptionnelle. Et ça explique aussi la qualité des lettres, parce qu'ils ont une façon évidemment d'écrire absolument extraordinaire, de décrire ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent. Donc cette capacité de décrire et d'analyser est évidemment là aussi un atout pour les historiens d'aujourd'hui qui vont trouver dans ces lettres énormément d'informations, non seulement concernant la vie de la famille, mais également le contexte politique, le contexte militaire, le contexte social, puisqu'ils ont tendance comme ça à parler un petit peu de tout ce qui les entoure. Donc je vous en ai mis quelques-unes. Alors ces lettres, évidemment, elles sont aussi très belles par l'écriture elle-même, donc c'est une des idées du projet, évidemment, c'est de mettre, on va parler de la dématérialisation de l'archive, évidemment, bon, il y a cette question aussi de la transcription, elles sont en cours de transcription, ces 3500 lettres, pour pouvoir faire des recherches dessus par mots-clés, etc. Mais elles apparaîtront aussi sur la plateforme en tant que telle, parce que le document lui-même est particulièrement intéressant, non seulement pour la qualité d'écriture, mais vous voyez aussi pour l'optimisation de l'espace, ils écrivent dans tous les sens, évidemment, la pénurie de papier fait que... Bref, il y a évidemment énormément d'éléments qui doivent être conservés et qu'on gardera sur la plateforme en numérisant les documents eux-mêmes. Ce qui est très intéressant aussi dans ces lettres, ce sont toutes les petites formules. Il y a parfois des petites formules de politesse ou de petites formules comme ça assez drôles entre eux qui sont généralement écartées dans les transcriptions, on va dire, qui ne s'intéressent qu'au contenu un peu thématique. Des correspondances, là ça dit beaucoup aussi sur les relations émotionnelles qui existaient entre les membres de cette différente famille, donc ils ont des petits surnoms souvent, etc. Donc l'origine sociale évidemment est importante, et ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est que comme je le disais, ils ne se contentent pas de s'écrire beaucoup, ils pratiquent la photographie. Donc évidemment, ça, il y a un autre média qui est très important dans le fond, qui est ce photographique. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ils l'utilisent d'une manière un peu classique pour constituer des souvenirs, etc., mais aussi pour communiquer entre eux. C'est-à-dire que la photo devient un vecteur de communication. Les filles, par exemple, développent les photos des garçons, et du coup, ça les amène à se poser des questions techniques. Donc ça documente aussi l'histoire des pratiques photographiques amateurs de l'époque. C'est très intéressant. Comme ce sont des ingénieurs, en plus, ils sont toujours sur la chimie, etc., sur la technique, ils sont toujours très pointus. Et puis, ça dit aussi des choses parce que ça devient un vecteur de communication. C'est-à-dire que les filles posent des questions sur ce qu'elles voient dans les photos, elles demandent des identifications des personnages. Donc ça crée aussi dans les lettres, du coup, des effets de résonance qui sont pour nous, évidemment, très intéressants. Alors, pour la pratique photographique, je vous montre juste quelques-uns des appareils qu'ils utilisent. Comme ils sont effectivement assez férus de technique, ils vont utiliser presque tous les modèles de l'époque. Ça va du petit Vest Pocket, qui est le plus utilisé à l'époque par les soldats parce qu'il n'est pas très cher, et surtout, il est guère plus gros qu'un smartphone aujourd'hui, donc on peut le mettre dans sa poche, à des appareils plus sophistiqués comme celui-là, et qui nous permet d'avoir des photographies de très bonne qualité, quasi professionnelles, du 6,5-11 de Kodak. Bon, je vous avais mis quelques publicités qui montrent... Là, ce sont des publicités allemandes, que ces appareils sont aussi utilisés évidemment par les Allemands, et qu'il y a même des publicités pour inciter les soldats à les utiliser. Et ils vont, l'un d'entre eux, Louis, qui est dans l'aviation, dans l'observation aérienne, et donc ça lui permet évidemment, il y a une certaine liberté pour faire de la prise de vue personnelle, il va utiliser cet appareil qui est un appareil quasi professionnel, un Vérascope, qui fait des vues sur plaque de verre, soit stéréoscopique, soit non stéréoscopique. Et là, ça permet d'avoir, le petit appareil qui permet de les visionner, ça permet d'avoir des documents d'excellente qualité dont je vais vous montrer quelques extraits. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les boîtes de ces photographies ont été conservées par la famille, avec à la fois les négatifs et les tirages, quand il y a eu des tirages, soit des contacts, voire même quelques agrandissements. Et puis, sur une de ces boîtes, on retrouve cette inscription, bon, qui était évidemment assez courante à l'époque, mais qui est assez intéressante, qui montre qu'il y avait... un intérêt pour la pratique photographique amateur, y compris du côté de l'institution militaire, qui cherchait à récupérer évidemment certaines de ces vues pour constituer ou en tous les cas enrichir ces archives. Donc, bon, je vais un petit peu vite sur les questions dans la correspondance, voilà, ce qui est très très intéressant dans la correspondance, c'est qu'on a beaucoup de traces de l'usage de ces photographies. Hein, je vous ai mis ici quelques citations retrouvées dans les lettres. Donc la Mérienne, c'est la sœur aînée qui sert un peu de pivot et qui justement sert souvent de relais quand il s'agit de réceptionner les photographies quand elles vont être développées. Donc vous avez une photographie ici de Mérienne. Assez étonnante d'ailleurs, cette photographie comme d'autres. Ils font beaucoup de ils font des autoportraits, puis ils font des portraits des uns et des autres. Parce que vous voyez qu'elle sourit aux éclats, ce qui est quand même assez rare pour l'époque. Hein, il y a assez peu, c'est une attitude très moderne en fait, hein, face à l'objectif, qui est évidemment très intéressante aussi quant à la position qu'ils ont face à cet outil qui est la photographie. Là, vous avez l'extrait d'une lettre du père au fils aîné, qui témoigne justement des premiers essais des deux jeunes fils qui se mettent à la photographie. Et bon, il y a toujours un peu d'ironie évidemment quand il s'agit de parler d'une pratique artistique, mais en réalité c'est pas si ironique que ça, parce que le plus jeune d'entre eux, Louis, dont on voit ici un autoportrait, il fait beaucoup d'autoportraits de lui-même, donc c'est celui qui est dans l'observation aérienne, et bien il se trouve que Louis, il va vraiment se passionner pour la photographie et en faire énormément, et à tel point d'ailleurs que certaines de ses photos ont une qualité quasi professionnel, j'aurais même tendance à dire quasi artistique. Donc voilà un autre autoportrait pris avec le fameux Vérascope dans son petit gourbi. C'est quasiment du selfie, hein, parce qu'il met l'appareil vraiment très très près de lui. Il en fait même dans son avion. Donc vous voyez, là on est vraiment dans l'idée du selfie, parce qu'il tient l'appareil en vol. Alors lui, il est observateur, c'est-à-dire qu'il est au milieu du pilote qui est devant, c'est pas lui qui conduit. Et puis derrière, c'est le mitrailleur, donc ça lui permet quand même de faire des photos de manière un petit peu plus quand même pratique. Mais voilà, ça c'est assez typique des photos artistiques qu'il réalise, c'est-à-dire des vues de nuages. Alors il explique dans les lettres que c'est formellement interdit normalement de faire ce genre de photographie en vol, mais il en fait quand même. Et elles sont très très belles, c'est des photos qui annoncent un peu certaines pratiques artistiques des années 20, et il y en a toute une série qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, ces lettres et ces photographies constituent incontestablement une source singulière ayant leurs propres caractéristiques. Donc c'est une archive évidemment extraordinaire que le film La cicatrice, une famille à la Grande Guerre, a essayé, disons, d'utiliser dans un premier temps. Mais évidemment, sur les 3500 lettres, il y a à peu près 150 photos qui ont été sélectionnées pour ce documentaire. Il y a en réalité 70 extraits de lettres dans le film lui-même. Donc vous voyez que c'est qu'une infime partie du fond. D'où l'idée de la création d'une plateforme numérique qui, au départ, devait être une simple plateforme ressource à usage pédagogique, mais qu'on envisage, comme je l'ai dit rapidement, et Guillaume va y revenir, beaucoup plus comme une forme interactive et une forme de réflexion, enfin, avec une dimension réflexive importante sur l'usage que l'on peut faire des archives numérisées, et en particulier dans le cadre des écritures numériques de l'histoire. Alors que dans le film, bon, il y avait un parti pris narratif et esthétique, il y avait une certaine exigence historique aussi, hein, il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi avec cette archive, mais contraint et forcé, je dirais, dans un cadre particulier qui est celui de la production télévisuelle, avec un format évidemment 52 minutes très limité. Mais il y avait quand même un questionnement, évidemment, je vous le résume en deux points. Il y avait un prologue voilà, qui permettait de présenter cette fameuse famille et d'aborder un certain nombre de thèmes, en particulier la question du deuil, puisqu'un des fils, le jeune polytechnicien Younes, qui meurt très très vite, il meurt en septembre 1914, donc ça devient une sorte de fantôme, de figure comme ça qu'on retrouve dans les lettres. Donc cette question voilà, de la mort, la question évidemment du lien avant-arrière, bon, il y avait un certain nombre de problématiques qui étaient abordées. Il y avait également d'autres images que je n'ai pas du tout présentées ici, qui apparaîtront sans doute d'une façon ou d'une autre aussi sur la plateforme, qui sont les images des maisons familiales, puisqu'il se trouve que les deux maisons dont il est question dans ces correspondances, l'une à La Ferté-sous-Jouarre et l'autre dans le Morvan, sont encore dans les familles aujourd'hui et sont des lieux chargés de cette histoire-là, parce qu'elles sont restées à peu près intactes. Donc le film investissait ces lieux. Et il y avait un procédé, alors qu'on essaiera peut-être de réutiliser sur plateforme, mais d'une manière sans doute assez différente, qui était le procédé de la surimpression, de l'incrustation, qui renvoyait finalement aux différentes temporalités des lettres, et puis qui renvoyait aussi aux correspondances entre le passé et le présent, entre histoire et mémoire, qui donnait, voilà, bon, je vous montre juste quelques extraits, la qualité de la couleur n'est pas terrible, mais ça vous donne une idée un petit peu des effets un peu esthétiques qui avaient été utilisés dans le film, qui permettaient de mettre justement en correspondance ces documents, ces écritures, ces photographies, ces lieux, Il y avait une façon comme ça de faire réapparaître dans les lieux eux-mêmes les lettres, les écritures, les personnages. Voilà. Enfin, je ne sais pas pourquoi, ça doit être le transcodage quand je suis passé de keynote à... Ah oui, c'est un peu bizarre. Bon, en tous les cas, l'idée, vous l'avez compris, de la plateforme, et je vais laisser la parole à Guillaume qui va rentrer dans le détail, c'est de prolonger ce travail qui a été fait autour de cette archive dans un film télévisuel, on va dire, et de voir comment on peut mettre à disposition l'ensemble du corpus, mais encore une fois, ce n'est pas qu'une simple mise à disposition, il y a une interface sur laquelle on a beaucoup réfléchi, qui se présente un peu comme un agenda et qui permet là aussi de rentrer dans l'archive et d'avoir un rapport, puisqu'on est assez sensible à cette question de la dématérialisation de l'archive ou de la rematérialisation sous forme numérique, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Donc ce sont des problématiques évidemment qui nous sont très chères et qu'on aimerait et qu'on souhaite évidemment intégrer au projet lui-même. Voilà, je passe la parole à Guillaume.
On change les places.
Oui.
Il faut changer. Ça permet de suivre un peu les images qu'on vous montre.
Alors,
moi
je sors. Peut-être Escape.
Ouais. Voilà.
Je ne suis pas familier.
Tu veux que je le fasse peut-être.
Ouais, je vais le faire. Ça me permet de commencer à présenter. Donc, je passe ton. Celui-là, ouais, c'est celui-là.
Voilà. Ah, c'est ça.
Merci. Merci Michel. Non, j'étais content d'entendre les interventions de tout à l'heure, puisque je voyais que voilà, se posaient des problèmes tout à fait similaires à ceux que nous posons. Pour cette plateforme. Alors voilà, c'est une série de questions que je vais essayer de présenter aujourd'hui avec quelques coups de force, quelques, voilà, quelques choix un peu radicaux pour faire réagir. Donc, je rappelle le double objectif de la plateforme, hein, les deux objectifs qui sont absolument... liés l'un à l'autre, c'est à la fois une plateforme pédagogique, puisque nous travaillons avec l'éducation nationale, et notamment les programmes d'histoire autour de la guerre de 14, et scientifique, puisque nous avons une double approche scientifique d'historien, et aussi de réflexion sur ce que sont que ces web documentaires, plateformes numériques, voilà, parce que nous sommes dans un département cinéma et audiovisuel, ce sont de nouvelles formes audiovisuelles où... multimédia, et donc voilà, nous voulons les penser en même temps que nous les faisons. Et donc cette double dimension scientifique doit apparaître dans notre plateforme le plus possible, avec donc ces deux questions principales, traverser la guerre de 14 à travers une expérience familiale, hein, tu l'as dit, c'est vu par les Rezal, la guerre de 14 vue par les Rezal, donc confronté à d'autres façons de voir cette guerre, et puis l'idée voilà, de faire mesurer aux internautes du même coup, du même mouvement, comment on écrit l'histoire. Et notre hypothèse, c'est que, autant suivre un documentaire, finalement, c'est se mettre dans les pas d'un cinéaste ou d'un historien et voilà, recevoir en quelque sorte sa proposition. Autant là, quand on a en main la souris, eh bien peut-être qu'on a des moyens de mesurer davantage ce qu'on fait et quelles sont les conséquences d'un certain nombre de choix qu'on va faire pour la façon de raconter cette guerre de 14 et peut-être même la façon d'utiliser ces instruments que sont le clic pour voilà, toute démarche scientifique ou pédagogique. Donc voilà, on résume ça autour de la question de l'écriture de l'histoire puisque dans notre tradition scientifique, voilà, a émergé l'idée d'une écriture audiovisuelle de l'histoire, hein, dans la continuité de ce qu'ont pu dire les historiens récents, et donc peut-être l'écriture numérique de l'histoire, à la fois numérique et audiovisuelle. Alors, un point de départ, c'est... Bon, c'est lié aussi au fait que ces plateformes existent depuis une dizaine d'années, peut-être même 20 ans, et donc on commence à avoir un peu d'expérience. L'idée, c'est vraiment de partir... de la culture web elle-même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas
de mettre le documentaire de Laurent en ligne et de faire un documentaire augmenté. Voilà. Il s'agit vraiment de se dire, on part des usages, hein, le titre de ce projet « Usage du patrimoine numérisé », c'est bien ça. Partons de l'usage, qu'est-ce que l'usage va changer à notre façon de présenter les choses, de montrer les archives, de travailler dessus. Deux choses me paraissent importantes. On a affaire à une interface, c'est pas un livre, c'est pas un film. Qu'est-ce que c'est une interface? Comment est-ce que on se... Bon, j'étais intéressé par la V1 de Zola et la V2 de Zola, on voyait qu'on allait vers quelque chose comme une interface. Et puis, ce qui nous sert un peu de point de repère, c'est le passage du documentaire au web documentaire, hein, qui s'est produit autour des années 2010. Ils ont été confrontés à des questions assez similaires aux nôtres. Alors, dans le cadre, évidemment, d'une démarche qui n'est pas strictement scientifique, mais qui s'en approche. Laurent a lui-même fait un documentaire, donc il y a une sorte de tradition du documentaire historique à vocation scientifique qui nous sert de modèle. Et bien justement, le documentaire, dans certaines de ses réalisations, s'est transformé en documentaire. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre de la façon dont nous pouvons réfléchir aux documents, au guidage ou à la liberté du spectateur internaute, etc. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez dans la salle les web documentaires les plus connus, mais voilà, je présuppose un petit peu la connaissance de ces formes. Alors, pour un titre un peu de provocation, on a organisé des séminaires, des journées d'études. Qu'est-ce qui revient toujours chez les professionnels? L'idée que, dans le fond, où l'interactivité, le rapport à l'interface a été le plus travaillé, et bien dans le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo, en fait, c'est un peu la culture sous-jacente de tous ces web designers, de tous ces gens que nous rencontrons et qui font des plateformes. Alors, ça, parfois, c'est plus compliqué que ça, mais disons que voilà. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est ce que dit très bien Sid Meier. Ce qui est intéressant dans un bon jeu, hein, c'est justement l'idée qu'on a des décisions intéressantes à prendre. Voilà. Et donc, évidemment, c'est pas loin du serious game, hein, de toutes ces formes qui nous intéressent aussi, dans la mesure où elles vont croiser la démarche scientifique, ou la démarche, en tout cas, d'apprentissage, avec la question de la maniabilité d'une interface. Et justement, à toutes les métaphores, avoir du jeu dans une interface, ou au contraire, être trop guidé. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un créateur de jeux vidéo très célèbre s'intéresse justement à la part de jeu qu'il y a dans l'interface. Rendre le choix intéressant. Ça me paraît des choses qu'on a repérées dans le web documentaire aussi. Donc, cette culture du web, c'est d'abord une question, cette culture d'interactivité, peut-être qu'on va essayer d'en tirer la question de la décision intéressante. Et puis, du côté des web documentaires, l'idée que, je vais vous montrer quelques exemples très rapidement, je fais l'hypothèse que, en fait, les rapports entre documentation et point de vue sont inversés, du documentaire au web documentaire. Donc, Laurent a expliqué quel était le point de vue du documentaire qu'il a proposé pour France Télévisions. Dans le fond, on resterait assez fidèle à ce point de vue-là, hein, présenter l'histoire de la guerre de 14 à travers la micro-histoire des mentalités, à travers une archive familiale. Ça reste une sorte de point de vue scientifique et peut-être aussi moral, enfin idéologique. Peut-être qu'il y a d'autres. On peut ouvrir la boîte, hein, pour mesurer quel est l'enjeu de ce point de vue. Et puis, voilà, l'idée que les web documentaires nous permettent de faire des choses, c'est-à-dire de faire des enquêtes, par exemple, au lieu de nous laisser simplement guider par le documentariste. Donc l'idée est de montrer comment on écrit l'histoire en maniant des matériaux, en confrontant des archives, des discours, des analyses et son propre point de vue. Donc, remonter à ce qu'on appelle la réflexivité tout à l'heure. Alors, un exemple de web documentaire sur lequel on a travaillé en séminaire, qui nous paraît un des plus aboutis, donc c'est 17 octobre 61, hein, sur le massacre qui a eu lieu d'une manifestation en faveur de l'indépendance algérienne en 61, qui a été un peu recouverte par Sharon en 62. Et donc, ce web documentaire qui est fait par une équipe à la fois d'historiens et de militants qui s'appelle Rasputim, voilà, propose un cheminement à partir de témoignages lus par des acteurs. Et donc vous voyez la dimension syntagmatique, pour reprendre le terme de tout à l'heure, du déroulement de l'interface. Donc si on continue vers la droite, hein, on tombe sur un témoignage d'historien. Donc d'abord un témoignage mis en scène, scénarisé, lu par un acteur, ensuite le point de vue de l'historien, et puis ensuite un document, un article scientifique sur le fameux graffiti ici au Mall des Algériens. Et puis on peut aussi aller jusqu'à une bibliographie. Voilà. Il y a une double circulation dans ce documentaire, hein, particulièrement intéressant, qui est l'acte des documents, hein, donc du témoignage rejoué à l'archive concrète, et en même temps on peut changer de témoignage et donc on peut changer de point de vue. On a le point de vue du policier, on a le point de vue du militant FLN, on a le point de vue d'une porteuse de valise, etc. Donc là il y a une circulation particulièrement intéressante dans ce web documentaire, et il nous intéresse aussi puisqu'il va vers la dimension scientifique, hein, c'est ça aussi ce mouvement qu'on essaye de retrouver. Donc voilà, je l'ai un peu schématisé comme ça, hein, dynamique de curiosité, désir de savoir, et puis confrontation avec les points de vue. Alors, est-ce qu'on a affaire avec les web documentaires à une inversion du rapport entre point de vue et document ? C'est un peu la thèse que je voudrais défendre. Vous avez la célèbre définition de Jean Bigot, hein, le documentaire c'est un point de vue documenté, c'est-à-dire un engagement, hein, appuyé sur un travail d'enquête. Mais dans le fond, on ne voit pas Jean Bigot en train de déambuler dans la ville de Nice, hein, il dit ça à propos du film, à propos de Nice justement. On lui fait confiance, en quelque sorte. Le matériau doit parler pour lui-même du fait que il a vu la misère dans la vieille ville de Nice, par exemple. Donc, enquête et documentation soutiennent le point de vue, mais ne sont pas fournis au spectateur. Or, dans le web documentaire, ce qui est très intéressant, c'est que ça s'inverse. Hein. Et comme on l'a déjà évoqué dans d'autres interventions, on se demande dans quelle mesure, dans 20 ans, un historien sera cru sur parole, ou un documentariste, et dans quelle mesure il ne sera pas obligé d'apporter ses preuves, en quelque sorte. Et que le changement avec l'Internet, la mise en ligne de tous les documents de travail, de toutes les fiches dont on parlait tout à l'heure, fait que finalement, montre-moi ce qui fait que tu peux dire ça. Voilà, hein. Et donc là, évidemment, la disponibilité de la mise en ligne inverse peut-être les choses, et en tout cas, on le voit déjà à l'œuvre dans les web documentaires. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, finalement, on documente un point de vue. Hein. Et donc, il y a un effet aussi sur la neutralité scientifique qui est d'obliger à expliciter son point de vue. Hein. C'est pas pour rien que tout à l'heure, quelqu'un a posé la question des principes de la déterritorialisation. Il faut que ça soit clairement énoncé, puisque nous sommes amenés à naviguer dans une interface et que cette interface, elle ne sort pas de nulle part. Hein. Donc là, les documents fournis, hein, on vous les montre, on vous les apporte, doivent attester de la justesse de l'engagement, hein, ou de la démarche scientifique. Alors il y a une chercheuse que j'aimais beaucoup, Geneviève Jacquinot, qui a proposé une distinction intéressante entre l'interactivité transitive et l'interactivité intransitive. Hein. L'interactivité intransitive, donc c'est cette activité interprétative de l'internaute, hein, sensorielle, affective, intellectuelle, qui contribue à déterminer l'interprétation du message et qui fait que on va faire ces choix intéressants ou pas, hein, si l'interface nous permet de les faire. Et que dans le fond, l'interactivité transitive, celle qui est purement machinique, instrumentale, n'est pas la même chose, n'est pas du même ordre que cette interactivité intransitive qu'on essaye de mettre en place autour de la question de l'écriture de l'histoire. Alors, donc voilà une présentation graphique des arborescences, hein, autour des lettres et des personnages. Hein. Prenons donc le père, Eugène Rézal. On propose un lien entre Younes, le fils mort dont on a parlé tout à l'heure, et son père. Donc il n'y a eu que 93 lettres malheureusement échangées entre eux pendant cette période. Il va y avoir 18 vidéos liées à l'entrée en guerre, à des choses que Younes a pu vivre, hein, même s'il n'est pas dans les films. Peut-être qu'on peut trouver des films qui vont restituer son expérience d'entrée en guerre, de formation à Polytechnique, etc. Des photos, bien sûr, de lui en polytechnicien, on en voit une ici. Des documents et puis des analyses de chercheurs. Et donc, en fait, en fond de cette interface, il y a tous ces liens entre les personnages et chaque personnage étant relié à un type de document différent. Alors, comment est-ce que cette circulation, cette arborescence des lettres, peut rencontrer justement l'inversion dont je parlais du point de vue documenté à la documentation du point de vue. La question qu'on se pose en termes scientifiques, en termes d'usage de l'archive, c'est est-ce qu'on va documenter un point de vue global? Est-ce qu'on va créer une sorte de faux point de vue global de la famille? On pourrait faire ça, après tout. Donc on s'était dit, ça va être le point de vue de la mère, ça va être le point de vue de Meryem, qui est la grande sœur qui sert un peu de pivot, qui fait beaucoup dialoguer les parents et les enfants entre eux, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, on va mettre l'accent sur l'équation des points de vue? Les enfants, ceux qui sont au front ne pensent pas comme ceux qui sont en arrière, les garçons comme les filles, ça. Donc, ça c'est une double question. Évidemment, il s'agit d'élargir le regard. À la fois la guerre est perçue en commun, et c'est ça qui est absolument passionnant dans la correspondance, c'est que en confrontant leur expérience de la guerre, évidemment ils finissent par s'ajuster les uns aux autres, ce que tu me dis me fait penser que donc il y a quand même une construction d'un commun qui est absolument passionnante à observer, mais en même temps tout l'intérêt c'est aussi de contextualiser tel point de vue patriotique. Pourquoi est-ce qu'il peut s'énoncer en 14? Est-ce qu'il sera différent en 17? Louis, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas loin des discours futuristes d'amour de la guerre, parfois, de l'émulation, de l'adrénaline que ça lui donne quand il est dans son avion, etc. Donc, pour nous, c'est extrêmement surprenant, ce discours anti-Bosch. C'est surprenant, en même temps, on le sait bien, mais on est quand même confronté à ça. Et donc, ils sont à la fois extrêmement sympathiques, charmants. C'est une famille idéale du point de vue des relations entre eux. Et en même temps, il y a ces choses-là qui montrent qu'on est à 100 ans de distance. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer ce regard élargi, cette mise à distance, tout en gardant l'idée d'un commun, d'un perçu en commun? Et puis c'est aussi, évidemment, ça c'est un point de départ de notre perspective, confronter l'archive Rezal à d'autres archives, comme tu l'as fait dans ton film. Il ne s'agit surtout pas de l'isoler et de faire comme si elle avait son autonomie, sa cohérence. Au contraire, s'il est intéressant de faire la micro-histoire, comme on le sait bien depuis Carlo Ginzburg, c'est parce qu'on travaille sur un meunier du Frioul et qu'à travers lui, on traverse des dynamiques qui sont en fait partagées par un ensemble, une période, etc. Donc c'est ça qu'on veut faire, c'est-à-dire en confrontant à chaque fois l'archive Rezal à une autre archive, créer une distance par rapport à l'archive Rezal, donc créer ne serait-ce qu'un minimum de distance par rapport aux documents, mais aussi faire dialoguer les archives, quitte à montrer justement une congruence entre le patriotisme qu'on va trouver dans un documentaire de propagande et puis ce que va dire Louis dans une lettre. Et évidemment, ça c'est très intéressant, puisque c'est par définition quelque chose qui repose sur la circulation et des archives et des points de vue, et que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus imaginable dans une plateforme en ligne que évidemment dans un documentaire où ça passe par le montage à Chris Marker, ça suppose d'autres formes de démarche. Donc, on s'est arrêté, c'était l'idée de Laurent, sur une interface qui prendrait la forme d'un agenda visuel, pour trouver une sorte de compromis entre les différentes logiques scientifiques et l'idée qu'on doit passer par un usage, une culture du web spécifique, qui sera celle d'un usager, qui sera peut-être un élève de collège, mais qui sera peut-être aussi un chercheur très pointu sur la guerre de 14. Donc il faut à la fois penser à ces deux usagers. Et donc on a, là j'ai repris une distinction que je trouve très intéressante chez Lev Manovitch, le langage des nouveaux médias, que l'écran d'ordinateur, c'est à la fois une surface de contrôle. Comme dans votre ordinateur, vous rangez vos documents, vous les hiérarchisez, vous avez votre méthode de circulation dans vos... Puis parfois c'est programmé par les logiciels, comme vous savez, et c'est parfois assez casse-pied. Et puis vous avez aussi l'écran comme la suite de la fenêtre d'Alberti, la perspective qui nous fait entrer dans quelque chose, donc dans un monde, dans une réalité documentaire, voilà. Et donc il y a un effet d'immersion. Donc l'agenda visuel nous paraît une sorte de compromis entre la logique de contrôle et la logique d'immersion. Si vous voulez, je détaillerai un petit peu comment on a envisagé ça. Mais voilà. Et l'avantage aussi de l'agenda visuel, c'est que ça permet à minima une distance historique, parce que ça explicite la question de la temporalité. Donc c'est-à-dire que quand on va se connecter sur cette plateforme, par exemple le 20 octobre 2015, on sera plongé dans une lettre, dans la semaine du 20 octobre 1915. Et donc il y a un effet voilà, de télescopage temporel qui fait tout de suite prendre conscience à l'internaute qu'il plonge 100 ans avant, mais qu'il est bien en 2015. Donc on a eu des discussions sur faut-il que l'agenda ressemble à un agenda d'époque ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on va naturaliser cet effet, ou au contraire, est-ce qu'on veut garder justement une forme de distance. Il y a plein de choses comme ça, très intéressantes. Enfin, déjà, on a un premier, il faut que je conclue. Donc, quelques parcours réflexifs auxquels on a pensé, non pas forcément dans la version qu'on va mettre en ligne prochainement, là, l'automne sans doute, mais peut-être dans une version ultérieure qui s'approcherait du web documentaire. Comparaison entre deux traitements de la même archive, activité d'écriture de l'histoire, etc. Et puis, voilà, des travaux pratiques, en quelque sorte, d'analyse des archives. À gauche, plutôt la matérialité du support. À droite, plutôt des questions de mise en scène. Pourquoi tient-on Saint-Enfant ? Pourquoi a-t-on régulièrement dans la famille Rézal ces photos des enfants, de la famille, à quelle idéologie familiale ça correspond ? Donc pourquoi rematérialiser ? Parce qu'il me semble en réalité qu'une des choses qu'on peut imaginer faire, justement, c'est rendre l'internaute conscient des conditions de production matérielle des documents. Paradoxalement, c'est un paradoxe à mon avis de la mise en ligne, c'est que si on traite l'archive comme une image, eh ben on ne comprend rien. Il faut donc faire un travail d'explicitation, de sourçage, d'analyse du document pour qu'on ne soit pas victime, entre guillemets, de l'archive transformée en image, donc ce que j'appellerais une rematérialisation indirecte, via cette interactivité intransitive, parce que si on n'est que dans le mécanique, dans le transitif, c'est des choses qui ne vont pas apparaître, bien sûr. Et puis, il y a l'idée de rendre l'internaute conscient de ce qu'il fait par ses gestes de mise en relation, par le clic, par l'hypertexte, lui donner l'idée de l'épaisseur sémantique de ses choix intéressants. Et donc d'arriver à une... alors ça c'est un peu un modèle des études de cinéma, arriver à quelque chose qui serait l'équivalent d'une opacité de la scénarisation, un peu comme on oppose le récit moderne opaque qui rend le spectateur conscient du fait qu'il est en train de voir un film et un récit audiovisuel, par opposition à la transparence hollywoodienne. Donc ça serait trouver l'équivalent d'une interface opaque qui comporterait une certaine dimension opaque. Voilà. Voilà, petit montage. Ceci n'est pas une archive. Donc l'idée qu'en prenant conscience de l'interface, il prend conscience de l'écriture de l'histoire. Ça, c'est un peu l'objectif de l'opération. Voilà, merci.
Je ne voudrais pas qu'on décale trop notre emploi du temps, mais on a le temps peut-être d'une ou deux interventions.
Voilà, merci Guillaume. Enfin, ton intervention, en fait, il y avait deux choses. Je me disais, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Témuse. Enfin, c'était au musée d'Ypres. Je ne sais pas s'il serait absolument passionné, je pense, par ce que vous avez fait, parce qu'ils ont présenté aussi... le souci qu'ils avaient, notamment vis-à-vis des jeunes générations, de les rendre à la fois familiers de ces histoires sensibles de la guerre et cultivés sur les manières de les produire. Donc, franchement,
exactement. Ouais.
Et mais c'est par rapport à ce triple souci à propos de l'interactivité. Alors, même si c'était absolument pas le même raffinement. Ça m'a rappelé le souci vers 1989-90 à la Cité des Sciences, où l'idée des scénarios interactifs, en fait, c'était que l'interactivité, c'était rendre les individus conscients des choix qu'ils faisaient et de leur faire faire des choix intéressants au lieu de progresser dans l'histoire. Et c'est là qu'on s'était aperçu que le scénario, c'était vraiment une situation de communication avec, et non pas une situation de consommation, puisqu'en fait, il s'agissait de remonter, aux raisons pour lesquelles on avait organisé, on faisait faire, et donc de donner des prises intellectuelles aussi sur les arrière-plans des scénarios. Et pour ça, c'est vrai, on s'était aperçu par rapport à cette histoire d'opacité que, par exemple, les interactifs qui étaient sur les manières de faire des naturalistes au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, si les scénarios s'étaient exactement répliqués, par exemple les algorithmes de détermination pour les plans, il n'y avait plus de prise. C'était juste une manière d'importer dans la conception d'un scénario une méthode au lieu de la rendre disponible. Et du coup, ces réflexions sur l'interactivité, où c'est peut-être moins du coup la culture du jeu vidéo que celle du scénario interactif, qui, combinée à cette épistémologie, on va dire, du sensible, je trouve, de remonter aux conditions de production d'un savoir, plus que de rendre disponible des énoncés dans une bibliothèque, tout ça, je trouve qu'il y a une actualité, une cohérence avec ce que les études de sciences mettent en avant comme étant ces partages des conceptions de la scientificité qui sont plus fondées sur l'enquête que sur la maîtrise parfaite de la production des énoncés. Et le troisième élément qui accomplit cette cohérence, je dirais, qui est politique en fait aussi, qui est, je trouve, il y avait un historien au musée d'histoire de Marseille qui disait comment on va faire si on n'a plus de récits intégrateurs à fournir dans le musée, et l'équipe du musée disait, eh bien, on met les visiteurs dans les situations dans lesquelles les historiens sont aujourd'hui, c'est-à-dire on leur fait supporter, y compris politiquement. Donc, j'ai trouvé que c'était cette cohérence à la fois politique, médiatique et scientifique.
D'abord, je voulais vous remercier beaucoup pour cet exposé que je trouvais absolument passionnant et très très clair et très très suggestif sur le plan aussi conceptuel. Alors j'ai une question dont je vous prie de m'excuser tellement elle est naïve, mais j'en ai une deuxième qui j'espère est un peu moins. La première, c'est comment vous avez découvert ce fonds d'archives qui est l'Irlande des archives privées et familiales. Et la deuxième, elle touche justement au troisième point que Joël, tu viens de développer. Donc moi, je suis professeure de littérature française, et en vous écoutant parler sur la question du point de vue, je me disais qu'on était en fait dans une espèce de roman épistolaire possible, et que la question du point de vue, est-ce que c'était pas justement une question du point de vue qui échappe maintenant au narratif, parce que vous dites pas raconter l'histoire, mais écrire l'histoire, c'est pas la même chose. Et est-ce que cette notion de point de vue, comment vous l'entendez, quoi, dans quel sens vous l'entendez, en expliquant très bien comment elle entre en confrontation avec le statut du document et peut-être même de la preuve dans le régime de l'histoire.
Alors sur la première partie qui est la plus facile, c'est la rencontre avec cette archive, elle est passée par la rencontre avec une personne en fait qui est un descendant de la famille Jacques Rézal, qui est le fils en fait de Paul, l'autre aviateur dont j'ai pas trop parlé, qu'on aperçoit dans les photographies, et qui était un peu le littéraire, disons, de la famille, parce que tous les autres étaient vraiment scientifiques. Lui, il avait fait des études de droit et de lettres, et c'est lui justement qui a eu très tôt le souci de rassembler cette archive. C'est-à-dire que dès la fin de la guerre, il a pris conscience de l'importance de l'archive, il a demandé à ses frères et sœurs et ses parents de rassembler toutes les lettres et de les disposer, de les conserver dans une des maisons. Il essaie de faire la même chose avec les photographies. Malheureusement, il y a un des frères, Salem, qui n'a pas joué le jeu. Donc, du côté des photos, il en manque quelques-unes. Et donc, le fils de Paul, Jacques Rizal, moi, je l'ai rencontré il y a plus de 15 ans, dans le cadre d'un travail que j'avais fait à l'époque sur un fonds iconographique à l'Institut National du Sport et de l'Éducation Physique, l'INSEP, où il y a un fonds très ancien de chronophotographie de l'époque de Georges Domény. Et lui, il est ingénieur chimiste dans un laboratoire là-bas. Et sachant que je travaille sur la guerre de 14, voilà, il m'a confié dans un premier temps la transcription, mais très partielle, que son père avait déjà faite. Et j'ai lu effectivement ça comme un roman, parce qu'il y a cette dimension évidemment très romanesque dans l'archive. Et Jacques est vraiment dans cette logique de transmission. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voilà, donne... Enfin, ça a été le cas pour le film, c'est le cas pour la plateforme... on a même les originaux entre les mains. Enfin, il y a une espèce de confiance évidemment qui est assez exceptionnelle et qui permet la réalisation, qui a permis la réalisation du film et qui permet la réalisation de cette plateforme.
Merci. Je n'y avais pas pensé à cette histoire de roman épistolaire, mais c'est vrai que moi-même je suis un ancien littéraire et que j'ai été très marqué et par Les Lettres de Persane et par Les Liaisons Dangereuses. Donc et là, il y a quelque chose effectivement de la notion de liaison. Que moi j'essaie peut-être de retrouver plus ou moins intuitivement dans l'interface. C'est certainement quelque chose qui joue, en tout cas personnellement. Et alors la question du point de vue, donc on sait bien tous ces jeux de point de vue qui sont faits par Montesquieu ou par Laclos, c'est un peu ça effectivement qui se joue, c'est-à-dire à la fois c'est des confrontations de point de vue, le même événement vu par... un tel ou un tel à l'intérieur de la famille, mais aussi des confrontations avec l'externe, c'est-à-dire un discours de propagande, une de presse qu'ils ont peut-être lu, mais par rapport à laquelle ils prennent du recul, en disant, on raconte des bobards sur l'avancée des troupes, voilà. Et donc ils mobilisent leur savoir d'ingénieur des transports, par exemple, pour savoir que pas du tout, on ne peut pas prendre les trains à ce moment-là. Enfin, bon. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes, ils ont vraiment un capital d'analyse. Il faut vraiment qu'on soit à la hauteur, en fait. Il y a presque une sorte de d'aune qui nous fixe par leur qualité d'analyse, qu'il faut qu'on soit au moins aussi bon qu'eux sur la contextualisation. Donc il y a ce niveau-là, et puis il y a le point de vue des historiens. Hein, ce qui nous a intéressé justement dans les groupes documentaires, par exemple celui du 17 octobre 61, c'est qu'il y a Jean-Luc Enaudi, qui est le point de vue sous-jacent, en fait, de l'équipe Rasputin. Enfin, j'ai eu des discussions avec eux, m'y avouer. Il y a d'autres approches sur cet événement. Il y a toujours un choix qu'il faut découvrir en quelque sorte, de même que dans le montage, on peut deviner le point de vue d'un documentariste. Donc c'est ça aussi, cette tradition du point de vue au sens de la tradition documentaire qui vient se télescoper avec le niveau épistolaire et la question évidemment de l'écriture de l'histoire. Voilà, à l'époque moderne, contemporaine, on s'est rendu compte que le discours historique, tout en prétendant évidemment à l'objectivité, était déterminé par les questions de son temps, ne serait-ce que ça, et par le point de vue de l'historien. Donc voilà, l'idée c'est de l'expliciter, y compris d'expliciter notre propre position, pour mettre les choses au point, et permettre à l'internaute à ce moment-là de venir avec son point de vue, ses points de vue. Alors soit c'est de la visite guidée façon activité pédagogique, faites ci, faites ça, etc. Soit c'est je suis un archiviste amateur dans mon coin et j'ai envie de savoir un peu plus sur Bordeaux et les Rizal, ils me donnent des informations sur Bordeaux dans la guerre de 14. Enfin, voilà. Donc c'est cette idée de confrontation, à mon avis, qui est un peu à la. Mais l'idée n'est pas un point de vue surplombant. C'est d'éviter ça. Voilà. D'éviter l'idée que. C'est plutôt de la mise à disposition de points de vue, je dirais. Voilà. Nous, en nous incluant dedans. Et en incluant aussi l'internaute, parce qu'il pourra avoir un historique de ses parcours. Donc,
voilà. Nous allons prendre une dernière intervention. Soit par des universitaires, soit par des institutions, soit par des corps de
toutes ces formes de personnalisation, on pourrait dire, par de l'établissement de profil, etc., est assez à la mode, on va dire, et c'est pas spécifique à la Grande Guerre. Hein. On avait travaillé aussi sur le journal de Galilée, tu te souviens, enfin, il y a cette idée aussi.
Magenta.
Et du coup, ce qu'il faut dire, par contre, et qui distingue, à mon avis, le projet et l'archive qui est la note d'autres exemples, c'est qu'ici, c'est pas un point de vue et c'est pas une personnalisation artificielle, c'est qu'on est face à des personnes réelles et qu'on a le matériel, je dirais justement, pour établir des profils et des parcours et des récits de vie comme ça, à la différence par exemple du poilu qui avait été créé par le musée de Meaux, où voilà, on était dans un truc qui du coup tenait prise à plein de critiques historiques, etc., et même éthiques, hein, parce que c'était quand même un peu discutable. Même pour Ypres, par exemple, alors je connais pas la dernière version de la scénarisation du musée d'Ypres, mais je me souviens de la précédente où il y avait cette idée de personnifier le parcours de la visite du musée en donnant une identité au visiteur qui avait un ticket. En fait, quand il achetait son ticket, il avait une identité qui était fictive, mais qui faisait qu'en fonction du parcours qu'il suivait dans le musée, il avait accès à d'autres informations que les informations, disons, partagées par tout le monde. Bon, c'est des formes effectivement qui sont intéressantes, mais là, dans le cas de l'archive RESA, ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'on est vraiment avec des profils réels, avec des récits de vie qui sont tellement riches, qui nous permettent justement d'entrer comme ça dans cette histoire, mais d'une manière qui est tout à fait, enfin historiquement, tout à fait fiable et qui s'appuie sur énormément d'éléments, énormément de matériaux, avec quand même cette idée, comme l'a rappelé Guillaume, c'est-à-dire qu'on ne suit pas uniquement, c'est-à-dire qu'à travers eux, on a accès à d'autres personnes qui sont parfois des personnages historiques, c'est-à-dire que par exemple sur l'interface, quand on est à tel jour, on va avoir accès à des lettres de tel ou tel membre de la famille, mais évidemment on va rappeler que ce jour-là il s'est passé un certain nombre d'événements très importants qui sont mentionnés ou pas dans les correspondances, bon, généralement ils sont mentionnés, et qu'il y a des personnalités évidemment qu'il faut évoquer, qu'il faut décrire, qu'il faut recontextualiser, donc c'est ce jeu permanent effectivement entre la micro-histoire et la macro-histoire qui est rendu possible par des personnages, à tel point qu'effectivement, moi c'était un des axes dans le film, c'était que, par l'usage des voix notamment, le travail qu'on peut faire sur les lectures de ces lettres avec des comédiens d'aujourd'hui, sans aller vers des formes comme ça qui seraient de scénarisation ou de fictionnalisation trop poussées, il y a une forme comme ça d'actualisation du passé qui fonctionne, hein, c'est-à-dire où il y a une émotion dans la diction, dans le choix des mots, etc., qui est aussi très intéressante, et qu'on aimerait bien le travailler sur le son aussi, sur ces interfaces, sur ces plateformes, sur ces webdocs, est très intéressant. Hein, il y a des webdocs, moi ça m'avait frappé, réalisés par les Canadiens, notamment à ce niveau-là, où le son, la présence du son est absolument remarquable, et où on peut jouer là aussi, c'est pas que sur le visuel ou le textuel, mais le sonore, et là je pense que face au matériau qu'elle note, c'est une dimension qu'il faut prendre aussi en considération.
Merci. On va passer à la suite. Je ne voudrais pas que le retard se reporte. Donc merci beaucoup.